Du 25 au 28 janvier 2024, l'association Écologie au quotidien organisait ses 22e rencontres de 10 intitulées « Agir pour le vivant ». Erdiwa était convié à prendre la parole de quelques intervenants présents lors de ces 4 journées. François Sarano, bonjour.
Bonjour.
François Sarano, vous êtes docteur en océanographie, plongeur professionnel, fondateur de l'association Longitude 181, ancien directeur de recherche de programme à Deep Ocean Odyssey, et puis aussi proche du commandant Cousteau pour de nombreuses expéditions durant une bonne dizaine d'années. Peut-être plus même. Et puis, vous étiez présent aux rencontres de 10 sur l'écologie au quotidien avec Agir pour le vivant. Et vous étiez présent également pour présenter donc l'océan, dernier territoire sauvage. Alors, c'est l'association 181 dans laquelle vous œuvrez, qui est mise en avant dans cette proposition. Et Longitude 181, qu'indique ce titre ?
L'association Longitude 181 a pour objectif, pour étoile polaire, de réconcilier nous, les humains, avec tous les autres vivants. Et évidemment, nous œuvrons un petit peu plus pour la préservation des vivants de l'océan parce que mon passé d'océanographe sur la Calypso m'amène à un peu mieux connaître le monde marin que le monde terrestre. Et puis surtout, l'association Longitude 181 a été mise en œuvre avec mon épouse il y a une vingtaine d'années maintenant pour lancer un code éthique à destination des plongeurs et des usagers de la mer qui était la charte internationale du plongeur responsable. Ce code éthique, cette charte, rappelait à chacun d'entre nous le meilleur moyen de cohabiter avec nos frères non humains de la mer et aussi, et bien sûr, avec toutes les personnes chez qui nous allions lorsque, après avoir fini la plongée, nous nous retrouvions à terre. Donc, il fallait considérer tout l'impact que nous, les plongeurs, avions sur le monde marin, mais aussi les gens qui vivent dans les régions où nous allons plonger, en faisant attention à notre consommation d'eau douce, à ce que nous consommions pendant les repas, le poisson, les langoustes, à ce que nous achetions. Bref, prendre conscience que nous étions inscrits dans le monde et que ce monde réunissait tous les vivants.
Alors, vous étiez donc à cette conférence pour l'océan, dernier territoire sauvage. À vos yeux, c'est encore le cas ou alors il y a déjà quelques inquiétudes sur l'exploitation de l'océan ?
Alors, c'est le cas. Bien sûr que l'océan est un territoire sauvage. C'est un territoire blessé, c'est un territoire exploité, mais ce n'est pas un territoire asservi. Sauvage, ça veut dire libre, ça veut dire indompté, ça veut dire indépendant, ça veut dire qu'il n'est pas domestique, qu'il n'est pas asservi par l'homme. Donc oui, les animaux marins sont tous des animaux sauvages. Nonobstant le fait qu'ils soient libres, eh bien, on constate qu'ils sont aussi blessés, parce que bien des populations de poissons exploités ou de poissons qui subissent des dégâts collatéraux, les requins par exemple, eh bien sont en chute libre et sont pour beaucoup en danger critique d'extinction. Donc le fait d'être mis sous pression par l'exploitation humaine ne va pas à l'encontre du caractère sauvage des habitants de l'océan. Ce qui est intéressant, justement, dans la possibilité de visiter ce territoire sauvage, c'est qu'on s'aperçoit que les animaux qui sont libres eh bien, il nous accueille, nous, les humains. Il ne nous fuit pas comme à terre. À terre, on ne peut pas approcher des étourneaux. On ne peut pas approcher un écureuil ou un lièvre ou un renard ou un sanglier. Ils fuient tous à l'approche de l'homme, dressé, chasseur impitoyable. En mer, si on est patient, si on est respectueux, on peut se mêler aux poissons, on peut être au milieu d'un banc, on peut être approché par des mammifères comme les dauphins, les cachalots ou les baleines, on peut côtoyer les requins à quelques centimètres. Ils nous accueillent parce qu'ils nous considèrent comme une autre espèce, ordinaire, toute ordinaire. Et cette cohabitation permet de vivre avec eux et donc de les connaître beaucoup mieux que de connaître les animaux terrestres qui nous fuient.
Très tôt, vous êtes destiné au métier de l'océanographie ?
Non, je voulais d'abord faire de la physiologie cérébrale. Donc, je m'intéressais à tout ce qui était mobilisation des choses que l'on mémorise et comment naissent les idées neuves, sur quel support chimique. Donc, c'était loin de l'océanographie. Et puis, je me suis intéressé aussi à la paléoanthropologie. Et puis, les circonstances de la vie m'ont amené à faire de l'océanographie. Mais j'ai de tout temps été intéressé par la mer et les animaux qui la peuplent. Très tôt, mes parents, mon père m'a offert un masque et j'ai nagé dans les années 60 dans une mer qui était bien différente de celle que l'on connaît aujourd'hui, et en Méditerranée en particulier, qui était beaucoup plus riche que celle que l'on peut explorer aujourd'hui, en dehors des endroits où qui sont préservés, en dehors des réserves marines. Et donc, j'ai été passionné par la mer, mais au départ, je ne me destinais pas à y exercer une activité d'ordre professionnel.
Votre rencontre avec le commandant Cousteau a donné un nouveau cap à votre engagement pour l'océan ?
Ah, ça, certainement. D'abord parce qu'avec mon épouse Véronique, nous avions, nous, embrassé la recherche pure. On avait chacun un doctorat d'océanographie et donc nous nous destinions à faire ce qu'on appelle, oui, de la recherche un peu fondamentale. Et lorsque nos routes ont croisé, la mienne en particulier, celle du commandant Cousteau, eh bien, on s'est aperçu que il y avait d'autres choses que la recherche pure qui étaient aussi importantes. C'était la préservation de ce milieu dans lequel nous recherchions des choses, mais qui était mis sous pression par l'exploitation humaine. Et donc, il était urgent à la fois d'alerter, de mieux comprendre, de témoigner, parce que lorsqu'on est plongeur, on est témoin de choses que les terriens ne voient pas, ne soupçonnent pas, donc de témoigner de ce qui se passait dans l'océan. Et cet engagement-là, eh bien, a modifié considérablement l'orientation de ma vie.
Quel lien vous établiriez entre les terres continentales et l'océan ?
Il y a le lien, mais il n'y a que du lien. L'eau. Nous sommes nous-mêmes les vivants, parcelles d'eau, parcelles d'océan. Ce qui lie cette planète, les vivants, la terre, la mer, le ciel, c'est l'eau. Tout est lié. Je suis toujours surpris qu'on fasse une sorte de distinguo, qu'on puisse séparer la mer, la terre, la montagne, les fleuves, les vivants. C'est comme si on prenait un humain et qu'on dit on enlevait le cerveau, le cœur, les jambes. Non, ça marcherait pas du tout. L'écosystème planétaire, l'écosystème eau est un et indissociable.
D'ailleurs, je crois qu'il y a un ou deux jours, un rapport établissait un réchauffement très important des océans. Je crois que c'est autour de 21 degrés. Est-ce que pour vous, ça vous parle, ce type d'information, et comment nous l'expliquer ?
Alors, j'espère que ça parle à tout le monde et pas simplement à moi. Les océans, l'océan mondial, Il y a un océan, comme, de façon un petit peu plus commode. On a dit qu'il y a plusieurs océans, mais il n'y a qu'un seul océan. Et le climatiseur de la planète, c'est lui qui tempère la planète et qui rend cette planète habitable. Elle le fait parce que l'eau, qui a une formidable inertie, peut encaisser les variations ordinaires de température. Elle fait l'échangeur entre les zones chaudes, équatoriales, tropicales, qui sont fortement éclairées par le soleil, et les zones froides, polaires. Les grands courants marins transportent la chaleur des zones tropicales vers les pôles et la fraîcheur des eaux polaires vers les zones trop chaudes. Bref, sans l'océan, notre planète n'est pas habitable. Et quand l'océan se réchauffe, eh bien, la climatisation marche moins bien. Elle marche moins bien pour deux raisons. D'abord parce qu'il est plus chaud, l'océan globalement, plus 1 degré. Chaque mois de l'année, il y a eu une augmentation par rapport à la normale de 1 degré cette année. Donc, c'est vraiment très, très important. Donc, à la fois, c'est plus chaud et il modère moins l'élévation de température atmosphérique. Et à la fois, cette élévation de température moyenne de l'ensemble de l'océan, parce que ce n'est pas seulement les eaux de surface qui sont touchées, eh bien, modifie la circulation océanique. Cette circulation océanique, que je disais il y a 2 minutes, jouant le rôle de climatiseur en faisant les échanges thermiques entre les pôles et les zones chaudes de l'équateur et des tropiques.
François Sarano, en tant qu'océanographe, est-ce que vous pouvez indiquer comment augmente cette température quels sont les facteurs?
C'est très simple. Nous brûlons aujourd'hui ce qu'on appelle les énergies fossiles, c'est-à-dire toute une énergie qui s'est concentrée pendant des millions et des millions et des millions d'années. Et tout d'un coup, on la libère, et en la libérant et en l'utilisant, eh bien, on rejette du gaz carbonique dans l'atmosphère et d'autres gaz à effet de serre. Ce qui fait que l'atmosphère est tout d'un coup beaucoup plus riche en gaz qui bloque la chaleur sur la Terre. Il n'y a plus de renvoi vers l'extérieur, il n'y a pas plus, il y a moins de renvoi vers l'extérieur. Donc, comme une serre, eh bien, ça provoque un effet de concentration de la chaleur qui réchauffe la planète. Eh bien, elle réchauffe la planète à l'extérieur de l'eau et elle réchauffe aussi les eaux de surface de l'océan. Et comme ces eaux de surface de l'océan qui sont surchauffées, mais vraiment surchauffées dans certains endroits comme la Méditerranée et l'Atlantique Nord, là, il y a eu des phénomènes extrêmement forts, eh bien, ces eaux-là, à un moment donné, vont plonger et elles réchauffent l'ensemble des couches profondes de l'océan. Ce qui fait que petit à petit, toute l'épaisseur liquide, toute la masse d'eau, elle, est bouleversée. Et donc, encore une fois, cela provoque des modifications des courants qui climatisent la planète et puis la capacité de l'océan à refroidir globalement.
Depuis les années 2010 environ, avec l'association Longitude 181, vous opérez aussi peut-être une prédilection pour les mammifères marins et les étudier.
Oui, alors on mène avec l'association Longitude 181 et nos partenaires scientifiques comme le professeur Glotin de l'Université de Toulon ou d'autres scientifiques qui s'intéressent aux cétacés, une double recherche sur les cachalots de l'océan Indien et ceux de Méditerranée. Pourquoi les cachalots? Parce que ce sont des animaux sociaux, très dans la société, très complexes et qui nous enseignent beaucoup sur les capacités cognitives et les échanges qu'ils peuvent avoir avec les autres espèces. Mais aussi parce que ces cétacés qui ont été massacrés au point d'être mis en danger d'extinction jusque dans les années 1960, eh bien, renaissent aujourd'hui grâce à l'arrêt de la chasse. Et donc, ils sont intéressants à double titre. D'abord, parce que ça montre que quand on arrête d'agresser, eh bien, la vie peut revenir, même celle qui est la plus fragile, les cétacés sont très fragiles. Et cela permet de mieux comprendre aussi quel rôle, maintenant que ces cétacés retrouvent leur plénitude, ils peuvent avoir dans cet écosystème, à la fois en nous indiquant les bonnes mesures à prendre pour le préserver, et puis comment l'équilibre entre les espèces se rétablit lorsqu'ils reviennent.
Et il y a les films auxquels vous avez participé, de nombreux moyens-métrages autour du thème de l'océan ou de la mer. Et puis il y a aussi des livres, vous en avez publié une vingtaine, dont le dernier, S'il te plaît, dessine-moi un cachalot, avec l'illustratrice Pomme Bernos. Alors ça, c'est un ouvrage destiné plutôt aux enfants, un ouvrage pédagogique.
Ah oui, c'est destiné aux enfants de 7 à 77 ans, parce que non seulement ce livre est admirablement illustré, dessiné avec beaucoup d'humour pétillant par Pomme Bernos, et donc vraiment il est à la portée de tous, et même des universitaires, parce que dans ses explications extraordinaires, Pomme a su utiliser un vocabulaire et une simplicité qui permet de comprendre les recherches les plus pointues qui nous ont permis de mieux comprendre la société complexe des cachalots, société complexe et extrêmement riche dans laquelle la solidarité est la clé de voûte et où les personnages principaux sont la babysitter qui garde la crèche et les nounous qui allaitent les bébés des autres femelles lorsqu'elles ne sont pas là.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA,
la radio du Diwa.
107.5,
101.7
FM.
Vous avez édité aussi des publications scientifiques concernant l'océan. Comment s'opèrent justement ces recherches que vous pratiquez? Vous avez énormément de temps sur les terrains peut-être pour l'étudier, ou alors est-ce qu'il y a aussi un enrichissement par la lecture, par les échanges avec d'autres scientifiques?
Alors, comme tous les travaux scientifiques, la première question qui prévaut à tout, c'est justement qui et quoi et pourquoi va-t-on essayer de se renseigner ou de comprendre un phénomène, une société ou quelqu'un? À quoi ça va servir? Est-ce que ça va apporter un mieux à l'humanité et aux vivants? Ça, c'est la première question. Si ça risque d'apporter un mieux vivre ensemble, alors il faut s'engager dans la recherche. Après ça, on fait une hypothèse de travail. Et puis, on lit ce qui a été fait sur ce sujet. Et avec tous ces éléments, eh bien, on fait un plan de travail qui va nous amener sur le terrain avec des moyens qui vont permettre de ramener des informations qui pourraient répondre à la question qu'on s'est posée au départ. Ça paraît un petit peu théorique comme ça, mais si on ne fait pas tout ça, eh bien, on n'arrive pas à mener une étude scientifique. Il y a un véritable protocole qui doit être mis en place et qui doit être suivi strictement pour que les résultats qu'on ramène ne soient pas simplement des intuitions, des je le sens bien, mais au contraire des résultats sur lesquels après on puisse s'appuyer et publier. Et les publications, l'analyse des résultats, les publications, là encore, c'est un travail qui est long et qui mérite le plus grand sérieux, parce que lorsque l'on veut publier, comme nous le faisons dans des publications internationales, il va falloir présenter cette publication à des reviewers. Des reviewers, c'est des relecteurs de renommée mondiale qui sont les spécialistes de la question et qui vont apprécier le travail. Par conséquent, on ne peut écrire ou publier dans des revues internationales sans le plus grand sérieux. Voilà. Et donc, oui, on passe à la fois beaucoup de temps sur le terrain, mais aussi beaucoup de temps au laboratoire et beaucoup de temps à lire la bibliographie, à confronter les idées. Parce qu'il n'y a pas que nous qui travaillons, il y a des tas de gens qui font des travaux formidables, formidables. Mais nous avons une méthode originale. Nous nous mettons dans l'eau et nous vivons au milieu des cachalots qui nous accueillent et qui nous permettent de les étudier. Par conséquent, cette méthode originale a bouleversé ce qu'on savait sur les cachalots, nous a permis de voir, de comprendre des choses incroyables, originales, formidables. Et c'est pourquoi, en quelques années, eh bien, nous avons pu nous installer à la fois dans les grands spécialistes du monde des cachalots et dans ceux qui, je crois, portent des idées neuves, à la fois pour les préserver et pour préserver l'océan.
L'association Longitude 181 est missionnée en même temps pour faire découvrir cet aspect océanique. Et pour cela, vous proposez trois piliers, celui de partager la richesse de l'océan. Donc j'imagine que c'est au moyen de courts-métrages, de moyens-métrages ou par des publications que vous enseignez ou vous renseignez un peu le public sur le sujet.
Alors, toute information qui est recueillie avec beaucoup de difficultés, souvent sur le terrain, elle prend son sens au moment où elle est partagée, au moment où elle est diffusée, au moment où elle sert tout le monde. Une information n'existe pas si vous, radio, ne la mettez pas en avant. Si elle est conservée dans un coffre, ça n'existe pas, une information conservée dans un coffre. Donc, la diffusion par des documentaires animaliers, comme nous l'avons fait avec le film Cachalot, une histoire de famille, qui a eu l'Oscar du documentaire animalier il y a 2 ans, ou des livres Le Retour de Moby Dick chez Actes Sud, ou Au nom des requins, que j'ai aussi publié chez Actes Sud, ou S'il te plaît, dessine-moi un cachalot, ou Pourquoi sauver l'océan, que nous avons écrit mon épouse et moi-même. C'est capital, c'est la même chose, ça fait partie de la recherche. Encore une fois, on ne peut pas dissocier la recherche elle-même, l'observation de terrain, les résultats que l'on obtient et qui sont tirés de ces observations, et la diffusion la plus large possible à tout le monde de ces résultats et de la philosophie de vie aussi qu'on en tire pour mieux vivre avec les autres.
D'où ce deuxième pilier, alerter aussi. Ça s'adresse donc aux politiques et aux législations peut-être pour une prise de conscience.
Alerter, bien entendu, et alerter en particulier les politiques, les décideurs, les chefs d'entreprise qui ont aujourd'hui, comme vous, ceux qui tiennent les médias, un rôle à jouer de prescripteurs et qui sont ceux qui ont les rênes en ce moment. Et il est vraiment grand temps de repenser profondément ensemble, pas reporter sur les enfants qui sont les générations qui viennent et qui devront... Ouais, bref, c'est aujourd'hui qu'il faut faire. Et donc, il faut que nous repensions notre rapport aux autres, tous les autres vivants, qui sont encore une fois nos partenaires de vie. On a co-évolué ensemble. Il est important de les considérer comme des vrais partenaires et non pas comme des encombrants avec lesquels il faut faire et des valeurs d'ajustement que l'on protège quand on peut et puis quand on est suffisamment riche ou quand on a le temps. Non, on est partenaires de vie. On vivra mieux tous ensemble. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc... une vraie réflexion, surtout aujourd'hui où le court terme semble imposer, au contraire, à nouveau le sacrifice des autres au profit d'une exploitation douteuse qui ne profite qu'aux actionnaires des grandes entreprises. Donc, ça ne peut plus fonctionner comme ça. Ça ne peut plus fonctionner. Et à chaque fois, le vivant et nous-mêmes, on est dans le même sac. Eh bien, on est sacrifié. On est sacrifié, on est la valeur d'ajustement. Il faut qu'on comprenne que si on sacrifie les autres vivants, nous nous sacrifions nous-mêmes. Et on le voit bien, on est sacrifié sur l'autel de la consommation et du toujours plus, et du toujours plus d'action, et du toujours plus de profit, mais pas pour nous. Donc le vrai profit, ce devrait être de vivre mieux tous ensemble.
Et puis, pour finir, l'action, donc agir avec la recherche, l'information, sensibiliser le public. Pour vous, quels sont les meilleurs outils pour agir, justement ?
Tous les outils. Tous les outils qui permettent de dire, asseyons-nous autour de la table, comment est-ce qu'on peut faire pour vivre mieux ? Qu'est-ce qu'on a en commun ? Allez, tous ensemble, même avec ceux qui sont le plus opposés à nos opinions. OK, on a des points en commun. On aime la vie. On a la vie. C'est ça notre point commun. OK, eh bien, essayons en posant sur la table tous nos points communs de voir comment petit à petit on peut se réunir pour faire mieux. Parce que mon Dieu, on peut faire mieux. C'est la cata en ce moment. C'est la guerre partout. On laisse nos voisins mourir noyés en Méditerranée. C'est un scandale, ça. Bien, soutenez SOS Méditerranée aussi. Voilà, une bonne association. Et puis, c'est terrible ce qui se passe aujourd'hui avec l'agriculture. À la fois, les gens ne peuvent pas vivre et à la fois, on va leur dire, oh ben, on va vous donner un petit peu, on va sacrifier les autres vivants pour que vous puissiez gagner 3 euros de plus en coupant vos trucs comme ça. Mais arrêtez. On oppose aujourd'hui pour mieux régner. Et pour mieux régner, c'est pour mieux avoir des profits pour les actionnaires. Non. C'est le changement, c'est de dire vivons mieux tous ensemble.
Voilà, et donc le court terme, à courte vue aujourd'hui sur l'écologie en quelque sorte.
Ah, c'est pas le court terme, c'est l'ultra court terme. C'est la réponse à l'heure pour savoir qu'est-ce qu'on va dire pour apaiser la colère. Juste, la colère juste. Mais on jette en pâture les mauvaises choses. On sacrifie les mauvaises personnes, on sacrifie le vivant. Ce n'est pas la bonne chose à sacrifier. Ce n'est pas là qu'il faut agir. C'est notre allié, le vivant.
François Sarano, Longitude 181 est un site aussi internet.
Vous savez, vous tapez Longitude 181 et vous arrivez sur le site de l'association. Et puis pour ceux qui aiment la lecture, encore une fois, les livres sont écrits au nom de l'association, ceux qui sont publiés chez Actes Sud, en particulier le Retour de Moby Dick, qui parle des cachalots et qui parle de leur société formidable et de notre recherche, et Au nom des requins, un livre plaidoyer qui permet de mieux comprendre qui sont tous ces espèces de requins et de découvrir que, comme chez nous les humains, eh bien, ils sont singulier, que chacun est différent des autres, la singularité du vivant, et d'autres livres qui sont « Réconcilier les hommes avec la vie sauvage », toujours chez Actes Sud, mais qui sont tous à la fois coédités par Longitude 181. Et puis, il y a aussi les films que vous pouvez voir. Je pense que ce qu'on peut donner comme conseil à chacun, c'est de chercher par lui-même, de s'arrêter, de sortir de chez lui, de regarder par la fenêtre, de regarder chaque fleur, chaque oiseau, chaque ver de terre, et de redécouvrir qu'il n'y a pas besoin de grandes lectures, pas besoin de grands sites internet pour se rendre compte qu'on est vivant au milieu des autres vivants. Sortez, sortez de chez vous.
Géographiquement parlant, Longitude 181 désigne quel secteur ?
La longitude 181 n'existe pas,
oui.
Parce que les longitudes qui relient les pôles, eh bien, s'arrêtent à 180. Et nous avions pensé, en évoquant les longitudes, que ça permettrait aux gens de voir le voyage, l'expérience, etc. Puis on s'est dit, on ne va pas mettre une longitude en particulier. Donc, on a mis une longitude qui n'existait pas, qui était celle du partage d'expériences que les voyageurs, les explorateurs, ceux qui aiment aller à la rencontre des autres, eh bien, pouvaient nous offrir.
Actuellement, vous êtes sur un travail particulier ou toujours sur les cachalots, les cétacés ?
Alors, les travaux scientifiques sont des travaux à long terme, très long terme. Donc, nous sommes toujours en train de travailler avec nos amis, entre guillemets, cachalots. Et ces études ne sont pas uniquement destinées à mieux comprendre les cachalots. On en tire beaucoup plus que cela. On en tire des idées pour mieux vivre avec tous les autres. vivant de l'océan et de la planète. Quand je pense cachalot, je sais qu'il est directement lié à tous les autres organismes de l'océan. Et donc, je pense tout de suite à l'étoile de mer, avec lequel il n'a pas de lien direct. Mais comme nous sommes tous unis par des liens, des interdépendances qui font l'écosystème planétaire, alors, en réfléchissant sur les cachalots, je réfléchis à notre relation à tous.
Monsieur François Sarano, je vous remercie beaucoup de nous avoir donné de votre temps sur RDIWA pour nous parler donc d'océan et de ce qui vous préoccupe et de ce qui vous passionne.
Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une belle journée en allant écouter les oiseaux.
Bonne soirée à vous. Au revoir.
Au revoir.